franceinter.fr.
Bonjour Patricia, bonjour Stéphane, bonjour Elisabeth Kikou et bonjour à tous. C'est l'histoire d'un mec, il est mort il y a 30 ans dans un accident de la route, fauché sur sa moto par un camion, putain de camion, comme le chantait Renaud. Coluche avait 41 ans. Et 30 ans donc après sa disparition, le Parisien Dimanche assure que l'humoriste continue de manquer sérieusement au pays. Parce que précisément, il n'était pas qu'un humoriste. Il était également un agitateur d'idées humanistes au grand cœur, fondateur des Restos, et un trublion politique toujours pas remplacé. Qu'aurait dit Coluche sur le mouvement social que connaît la France aujourd'hui? Qu'aurait dit Coluche sur la loi travail? Ou sur la moustache du leader de la CGT? Qu'aurait dit Coluche sur les attentats? Sur Donald Trump ou l'Angleterre qui pourrait quitter l'Union européenne? Coluche n'a pas changé la politique française, mais il a contribué à une prise de distance vis-à-vis des politiques, analyse le député Noël Mamère dans le journal. Il a apporté à la France ce que les anglo-saxons pratiquaient depuis des décennies, à savoir la capacité à ébranler les totems, tournant en dérision tout le système politique. Un système que, de fait, il moquait sans arrêt. Les hommes politiques, disait-il, font le même métier que moi, sauf qu'ils se mettent moins de rouge sur le nez. Coluche, qui sans lâcher son nez rouge, fut même un temps candidat à la présidentielle de 1981. Il s'agissait d'une blague, mais certains l'ont pris au sérieux, et c'est précisément parce qu'on le prenait trop au sérieux qu'il avait finalement annoncé qu'il jetait l'éponge. François Hollande, en revanche, devrait bien être candidat à la présidentielle de 2017 et contre toute attente, il devrait même se soumettre à la primaire décidée hier par le Parti Socialiste.
Oui, une primaire taillée sur mesure, titre à sa une ce matin le journal du dimanche.
Et une primaire dont il a lui-même validé le principe, nous explique Cécile Amar, en pointant une étonnante concordance des dates. C'est le 22 janvier 2012 qu'il avait prononcé ce qui fut certainement son meilleur discours de campagne. C'était au Bourget et c'est ce jour-là qu'il avait conquis le cœur du peuple de gauche. Et ce sera le 22 janvier 2017, s'il décide effectivement d'être candidat, que François Hollande aura de nouveau rendez-vous avec ce peuple qu'il avait choisi cinq ans plus tôt, 22 janvier 2017. Premier tour donc de cette primaire votée à l'unanimité par le Conseil national du PS hier. Ce clin d'œil de l'histoire fait sourire le chef de l'État, nous explique Cécile Amar. Ce sera un triste anniversaire, commente en revanche un autre candidat potentiel face à cette concordance des dates et des candidats potentiels. Il y en a déjà un bon nombre aujourd'hui, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche, les deux derniers s'étant même déjà déclarés. Chez les alliés du PS, ça se bouscule également, la PRG, Annick Girardin a dit sa disponibilité. Quant à la PRG, Sylvia Pinel, elle trouve qu'elle est aussi légitime qu'Annick Girardin. L'écolo François de Rugy est aussi sur les rangs et Jean-Luc Benhamia s'assure qu'il peut lui aussi, pourquoi pas, être candidat, de même que Pierre Laroute-Turoux, le président du mouvement Nouvelle Donne. Elisabeth Guigou, vous n'êtes pas candidate?
Non. Je soutiens le président de la République s'il est candidat.
Interrogé par le journal du dimanche, le premier ministre Manuel Valls est de votre avis, Elisabeth Guigou, et lui ne voit aucun inconvénient à ce qu'un président en exercice se présente à une primaire. Rien de dévalorisant, dit-il, en jugeant que ça s'appelle tout simplement la démocratie. Dans cette interview, le chef du gouvernement défend par ailleurs une nouvelle fois la loi travail, fortement contestée, toujours contestée. Maintenant, dit-il, il faut aller vite et faire adopter ce texte. En passant de nouveau par le 49-3, lui demande le JDD, sans avoir de réponse quant à la nouvelle journée de mobilisation contre la loi prévue jeudi prochain. Manuel Valls en appelle au bon sens des syndicats compte tenu de la situation, des violences qui ont eu lieu mardi dernier, de l'attentat odieux contre le couple de policiers, mais aussi de la tenue de l'euro. Les organisateurs devraient annuler eux-mêmes les rassemblements. C'est du bon sens, ajoute-t-il donc, ajoutant que la CGT doit aujourd'hui sortir de l'impasse.
Toujours dans le JDD, c'est la reprise des débats pour le référendum qui aura lieu en Grande-Bretagne jeudi prochain.
Partir ou rester dans l'Union, telle est donc la question. Et après 3 jours de pause à la suite du meurtre de la députée travailliste Jo Cox, la campagne reprend donc ce dimanche. Ce matin, un sondage donne une légère avance aux partisans d'un maintien dans l'Union européenne. Mais si jamais c'est l'autre camp qui l'emporte, on perçoit ça et là l'inquiétude dans les journaux. Dans Nord Littoral, vous lirez l'inquiétude des Anglais installés dans le Calaisis. Dans Havre Dimanche, vous lirez l'inquiétude des Anglais installés en Normandie. Et puis parmi ceux qui s'inquiètent, il y a également les Français installés outre-Manche. C'est eux que Caroline Lumet est allée rencontrer pour Grazia. En cas de sortie du Royaume-Uni de l'Union, pourrons-nous toujours, nous, les expatriés, avoir un accès au système de santé anglais ? S'interroge Francine, diététicienne à Londres. Et nous faudra-t-il un visa ? Aurons-nous même envie de rester ? Se demande Marc, un banquier, qui précise que ce que montrent les débats actuels en Grande-Bretagne, c'est qu'une bonne moitié de la population britannique ne veut plus d'étrangers chez elle. De son côté, Nathalie, une mère au foyer, avoue qu'elle est préoccupée comme jamais. Pour la première fois, depuis qu'elle a émigré en Angleterre il y a 10 ans, elle souffre, dit-elle, d'une atmosphère pesante. Son mari travaille à la City et il pourrait bien faire les frais du référendum, devoir repartir en France ou pire, perdre son boulot. Il y a quelques jours, en rentrant de l'école, leur fille de 11 ans a même été gagnée par une attaque de panique. D'après sa mère, elle faisait un amalgame avec les images de réfugiés qu'elle avait vues à la télé, des enfants dans des camps, d'autres sur des bateaux. Et donc elle avait peur que dès la semaine prochaine, on la jette de sa classe et qu'on l'expulse du pays. Et sinon, c'est l'histoire d'un mec, il voulait contrôler l'image de son entreprise.
Oui, c'est la suite de l'enquête de l'Hebdo Politis consacrée aux curieuses méthodes de la société Free.
Le mois dernier, Politis révélait de quelle manière l'opérateur parvenait à pousser à la démission des salariés dont il voulait se débarrasser. Eh bien, cette semaine, Erwan Manak et Nania Sini nous expliquent comment l'entreprise de Xavier Niel a obtenu le label des boîtes où il fait bon travailler. En l'occurrence, en écartant de l'enquête tous les salariés qui auraient pu formuler d'éventuelles critiques. Dans un groupe qui compte 5500 personnes, moins d'une centaine, triées sur le volet, ont répondu au questionnaire. Un listing de salariés à exclure du panel avait même été rédigé. Listing accompagné de commentaires succincts, pas évident à gérer, assez particulier ou carrément à éviter. Et c'est donc grâce à cela que Free a pu figurer en bonne place dans le palmarès 2013 des entreprises où il fait bon travailler. Classement que certains dans le groupe ont dans un premier temps pris pour une mauvaise blague. Pas de blague, mais des sourires à la lecture du nouveau magazine scientifique en kiosque depuis 7 semaines. Genius Science, c'est son nom. Et il s'agit de l'adaptation du Focus Science anglo-saxon, une publication grand public et des sujets très grand public. Ce que votre visage dit de vous, peut-on voir à travers les murs ou encore pourquoi les cookies sont aussi addictifs que la cocaïne. Je crois que vous aimez ça, Patricia.
Pardon, la cocaïne ?
Je parlais des cookies, mais vous avez le droit d'aimer aussi la cocaïne. Ce nouveau magazine se fait par ailleurs l'écho des dernières découvertes et des dernières études publiées à travers le monde, celles notamment d'une équipe américaine qui suggère que les propriétaires de chiens sont nettement plus heureux et bien moins névrosés que les propriétaires de chats. Autre équipe, autre étude et une conclusion à l'opposé de ce que l'on entend d'habitude, faire du sport pourrait ralentir la perte de poids. Et ce, parce que l'organisme compense en s'adaptant à la démarche et à la demande de l'exercice. Si un jogging à la pause déjeuner brûle des calories, notre corps y répond en s'accrochant aux calories restantes jusqu'à la fin de la journée. En somme, si vous voulez maigrir, oubliez le sport. Arrêtez juste les cookies.
Faites du sport, Frédéric Pommier.
Et les
sportifs, le temps qu'ils passent à courir, ils ne le passent pas à se demander pourquoi ils courent.
Et alors, après, on s'étonne qu'ils soient aussi cons à l'arrivée qu'au départ. Là encore, c'est une citation de Coluche. Cependant, ce soir, les joueurs de l'équipe de France sauront très bien pourquoi ils courent. En l'occurrence, pour conserver la première place de leur groupe dans l'Euro de football, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, ils rencontrent la Suisse. Et pour rester en tête, un match nul suffirait, mais ainsi que le titre la Provence ce matin, les Bleus vont jouer la gagne. Et une victoire serait rassurante, comme le souligne l'Ardennais qui évoque un sans faute qui reste à confirmer. Et puis de son côté, le Parisien nous parle de l'autre équipe de France, pas l'équipe féminine, elle ne fera jamais la une, mais l'équipe constituée par les femmes des Bleus. La présence des familles, les femmes et les enfants ou encore les parents de ceux qui sont célibataires, cette présence fait l'objet de toutes les attentions car, comme l'explique un membre de la Fédération Française de Football, les familles participent au bien-être des joueurs et par conséquent aux performances de l'équipe. Pour les déplacements, tout est donc pris en charge par la FFF, ce qui représente un budget d'environ 15 000 euros par match. Enfin, c'est l'histoire d'un mec, il avait un tout petit zizi. Intéressant papier de Chloé Rébillard dans le Sciences Humaines de juillet. Pourquoi les Romains préféraient les petits phallus ? Dans nos représentations actuelles, les pénis de taille imposante sont souvent assimilés à un surcroît de plaisir féminin. N'est-ce pas, Patricia ? Et dès lors, ils confèrent une certaine aura de virilité.
Votre maman et votre grand-mère vous écoutent et qu'elles vont râler.
Ma grand-mère
vous
ne m'écoute pas, elle n'écoute pas la radio. Dès lors, les pénis de taille importante confèrent un aura de virilité aux hommes qui en sont pourvus. Une vision qui laisse à penser qu'il en a toujours été ainsi. Mais c'est une erreur. Dans la Rome antique, société pourtant patriarcale par excellence, ce sont bien les tout petits sexes qui avaient la cote. Pour preuve, les nombreuses statues qu'on expose dans les musées. Contrairement aux phallus importants, qui étaient associés à la bestialité et à l'obscénité, les plus petits passaient comme un signe de tempérance, d'élégance et de distinction sociale. Tempérance, élégance, distinction. En ce dimanche de Fête des Pères, et alors que la une
Vous avez vu David
M,
de Michel-Ange
Et
vu
alors
il
que
est
la
fait
une de M, le magazine du Monde, propose une photo de l'acteur de porno Rocco Siffredi, ce petit rappel historique pourrait donner la pêche à un paquet de messieurs.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.